Apprendre un langage de programmation, apprendre à construire, ça permet aussi d'apprendre à d'abord déconstruire. Si tu sais déconstruire quelque chose, tu peux le challenger. Et je sais que ça me sert tous les jours aujourd'hui, même dans des métiers ultra créa. Tu montes un projet, tu montes une boîte, tu montes quelque chose, c'est qu'une succession de plein de petites tâches, de plein de petits rôles, de plein de petites procédures internes qui t'amènent à quelque chose. T'as beau être CMO d'une très grosse boîte, quand t'as une question, t'appelles un pote, t'appelles une connaissance. Encore une fois, incarner ce « j'ai une question, je vais regarder ce qui se passe sur « j'ai un pote dans la com ». On peut fake it till you make it, mais comprends quand même que t'es en train de le fake et que t'as un plan et que tu sais pourquoi tu le fais. Oui, ça a fonctionné, certes, c'est bien, mais tu peux pas donner des conseils alors que t'avais aucune maîtrise sur les événements ou t'as pas spécialement compris ce qui se passait, quoi.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Laurent Garoust, qui est le fondateur et CEO du média J'ai un pote dans la com. C'est le top 1 des médias B2B marketing sur les réseaux en France. Salut Laurent, comment tu vas ?
Eh ben salut François, merci pour l'invitation dans un premier temps.
On va avoir une discussion très sympa sur ton média, sur ton parcours, sur l'entrepreneuriat aussi, sur ta vision de la communication et des médias. Ma première question que je pose vraiment sur chacun de mes podcasts, c'est dans quel environnement est-ce que tu as grandi ?
J'ai grandi dans un petit village de 800 habitants. Donc c'est vraiment le petit bled paumé proche de la forêt, mais quand même en région parisienne. Donc c'était pas une ville de province très éloignée de Paris. Donc j'avais cette chance d'être à 30 minutes de Paris. Pour autant, j'étais à la campagne comme si j'étais en province. Donc voilà, petite famille modeste dans un village de moins de 1000 habitants, isolé de tout, si ce n'est relié par d'autres villages par un bus.
Quand on est isolé de tout, c'est quoi tes premières passions ? Est-ce que tu t'en souviens ?
Mes premières passions, c'était la construction. Le bricolage, la bidouille, on n'était forcément pas beaucoup, hein, sur 800 habitants, on était, je crois que de mémoire, en CP, on était 6. Et donc après, 6, bah, t'es 7 en CE1, et puis après, il y en a un qui déménage, donc voilà, t'es toujours entre 5 et 6. Donc t'as de ton âge très peu de personnes, donc t'apprends à te débrouiller, à t'amuser avec le peu que tu as dans un petit bled proche d'une forêt. Donc c'était la construction, la découverte, l'expérimentation, loin des grands centres commerciaux qu'on peut avoir si on grandit dans une grande ville de province ou de région parisienne. Donc voilà, la débrouillardise, savoir s'amuser avec pas grand-chose.
À un moment donné, tu dois quitter cet environnement pour faire tes études. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais comme études et comment est-ce que tu le vis ?
Alors, j'ai jamais vraiment beaucoup aimé l'école. J'étais plutôt quelqu'un qui préférait être justement en train de faire des choses de mes mains et expérimenter. Pour autant, j'étais pas le dernier de la classe. Voilà, je faisais juste ce qu'il fallait pour passer les niveaux et puis faire en sorte que ce soit pas trop douloureux et en même temps un moment où on essaye de profiter. Donc des fois, fallait pas trop profiter pour justement que ça puisse passer tous les niveaux sans avoir à rater une étape et à recommencer. Donc j'ai fait un bac techno, c'était STT à l'époque, et ensuite j'ai continué avec un DUT en technique de commercialisation, une licence professionnelle en management des organisations, et ensuite j'ai quitté l'université après 3 ans pour aller en école de commerce pour un diplôme en marketing et communication.
Donc très tourné business ?
Très tourné, ouais. Entreprise, business. En fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais que très certainement, j'entreprendrais ou je créerais une structure quand je savais pas trop. Ce que je voulais, c'était voir un petit peu tout. Alors, un petit peu de droit, un peu de marketing, un peu d'informatique, un peu de vente, un peu d'achat, un peu de logistique. Bref, tout m'intéressait en vrai. Donc, je me suis pas spécialisé très tôt. Hein, jusqu'à ma licence, je suis resté le plus large possible. Et en fait, c'était pas forcément par choix, mais j'avais j'ai fait que de l'alternance à partir de mon bac plus 3. Et en fait, j'avais un bachelor en management des organisations. Et en général, l'alternance fitait pas toujours à mon diplôme. Quand je faisais du market com, j'étais plutôt contrôle de gestion en entreprise. Enfin voilà, c'était un peu un parcours atypique et un peu incohérent de l'extérieur. Mais ça me permettait de faire plein de choses. Voilà, okay. Découvrir sans trop me spécialiser, mais de pouvoir changer quand je voulais.
À quel moment est-ce que tu conceptualises ce que c'est l'entrepreneuriat, tu vois ? Parce que le fait de créer, c'est quelque chose de naturel et d'inné, potentiellement. Parce qu'on est tous intéressés par le fait de créer quand on est petit, sans comprendre ce que c'est exactement. Mais à quel moment tu te dis l'entrepreneuriat, c'est ce que j'ai envie de faire ?
En fait, assez rapidement, puisqu'on était isolés, on avait quand même des ordinateurs, Internet comme tout le monde, avec des connexions 56K. Donc les hivers, on les passe pas dehors ou un peu moins. Et en fait, j'ai assez rapidement créé des sites à l'époque, créé toutes pièces avec Bloknotes. À l'époque, je montais des forums avec des scripts PHP. Enfin voilà, c'était vraiment la bidouille que je pouvais pas faire dehors. Je la faisais sur un ordinateur. Et donc très vite, j'ai produit des choses. Et quand tu fais un forum, bah du coup, t'as des membres, ou en tout cas, tu cherches des membres, tu crées cette communauté que t'essayes de regrouper, d'identifier. Donc, t'as ce travail de, OK, qui peut s'intéresser à ça? Est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? Au départ, tu le fais, mais c'est juste pour le faire. Et après, tu dis, OK, j'ai testé, j'ai vu comment ça fonctionnait techniquement. Maintenant, je vais le faire, mais avec un vrai but derrière. Donc, voilà, c'était vraiment l'expérimentation qui a fait que je prenais goût à chaque fois repartir d'une page blanche et me dire, OK, techniquement, il y a un truc qui est faisable. Comment on le fait? J'essaye, je fais un brouillon, je fais un truc qui sert à rien. Et ensuite j'itère et je fais, OK, bah maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec cette compétence, ce truc que je sais faire, comment je peux le rendre utile pour avoir une petite activité, quoi, occuper le temps, tout simplement.
Pendant et après tes études, tu vis tes premières expériences professionnelles, on va dire. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu peux me les raconter?
J'ai trop eu de la chance sur chaque expérience. C'est que la toute première année en alternance, c'était du coup pendant ma licence en management des organisations. Et comme je disais, j'étais jamais au poste en entreprise qui était cohérent avec ma formation. Et en fait, j'ai passé des entretiens pour un service achat et y faire un petit peu de management. Et il se trouve que mon maître d'apprentissage a changé pendant la période des vacances. Donc entre juillet et août, il a changé. Donc je suis arrivé à la rentrée et c'était quelqu'un de nouveau que je connaissais pas, que j'avais jamais vu, qui savait pas qui j'étais, il savait même pas pourquoi j'étais là. Mais juste j'avais un bureau attitré et il me dit écoute, désolé de te l'annoncer, mais moi j'ai un autre profil et j'ai pas la même vision et ambition que la personne qui était là avant. Du coup moi je suis quelqu'un de très informatique, Excel, VBA. Je suis pas sûr que ça t'intéresse, donc si tu veux on peut arrêter tout de suite. Donc c'était assez marrant et en fait me connaissant pas, moi j'avais un fort attrait pour tout ce qui était informatique et du coup programmation parce que j'avais fait un petit peu de site internet et donc du coup je dis non, mais en vrai je suis chaud de rester, au contraire quoi, je vais voir ça en cours, là ce sera que un plus quoi, je vais arriver au cours d'Excel à l'école, je me ferai un peu chier mais au moins je vais passer du temps sur autre chose quoi finalement et j'ai bouffé pendant un an de la programmation d'un langage que je connaissais pas et voilà, j'ai fait du Excel Advanced plus pendant un an donc c'est ça aussi à chaque fois ce paradoxe entre ce que je faisais à l'école et puis ce que je faisais en day to day qui était assez intéressant.
Ensuite quand tu quittes tes études, tu fais majoritairement des métiers reliés à la finance, ouais. Si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences en tant que salarié?
Déjà j'ai fait des grands groupes, j'ai fait Renault Air Liquide, donc comme ça je savais que j'allais pas finir dans ces entreprises là donc je me suis dit pour les faire maintenant et puis avoir à les faire ou pour me dire que voilà j'ai vu comment c'était et je sais que je vais pas y retourner, si je commençais par là je savais que j'irais pas après, je me suis dit faut que j'aille voir un peu comment ça marche ces grosses boîtes, comment c'est structuré, parce qu'en vrai tout ce qu'une TPE PME vit, ils l'ont vécu à un moment, donc je vais directement avoir le pur jus de toutes ces étapes et toutes ces erreurs qu'on peut faire quand on démarre. Eux, c'est bon, c'est terminé, ils ont mis deux process, il y a assez de monde, il y a une personne pour chaque job, et je vais observer, je vais faire mon temps d'observation sur une expérience qui est de l'apprentissage, je suis là pour ça, il y a aucun enjeu, aucun risque, et donc du coup j'ai fait d'abord des grands groupes, j'ai vu cette structure, un peu un intérêt de mission limité finalement, parce que t'es un pion, enfin t'es une step dans un gros process, et donc finalement t'es pas là, enfin je grossis un petit peu, je caricature, mais voilà, j'ai eu cette vision très grand groupe, très grosse boîte, pour pouvoir me dire, ok, c'est comme ça qu'il faut que ce soit, ou en tout cas, c'est a priori comme ça que ça devient de manière organique et naturelle une société quand elle grandit. Et comme ça, après, bah, moi, je sais à peu près, quand je démarrerai, de me dire, bah voilà, il y aura des process, les process, ils seront rédigés, ils seront partagés, enfin, il y aura des enjeux de communication aussi pour les partager, des rôles, des attributions de rôles, des gestions de risques, comptables, finances. Tu l'as dit, j'ai fait beaucoup de finances, j'ai fait beaucoup de contrôle de gestion. Et ce que je retire de ça, c'est cette capacité à programmer déjà, parce que je trouve que apprendre un langage de programmation, apprendre à construire, ça te permet aussi d'apprendre à d'abord déconstruire. Et donc, si tu sais déconstruire quelque chose, tu peux le challenger. Et je sais que ça me sert tous les jours aujourd'hui, même dans des métiers ultra créa. Sauf si t'es DA, en vrai. Si tu prends des postes un petit peu plus de management, t'as besoin de savoir construire une offre, t'as besoin de savoir déconstruire les choses pour les comprendre, les maîtriser et puis les segmenter, en fait. Tu montes un projet, tu montes une boîte, tu montes quelque chose, c'est qu'une succession de plein de petites tâches, de plein de petits rôles, de plein de petites procédures internes qui t'amènent à quelque chose. Et c'est ce que je retiens de ces grosses boîtes et de ces expériences plutôt finance où voilà, il y a une valeur dans la case, il y a pas moyen de faire un dessin dedans, quoi.
On n'est pas sur la créativité.
Ouais, non, clairement pas. Mais par contre, vu que je faisais, comme je disais, du marketing en parallèle d'être contrôleur de gestion, bah, j'amenais un peu de créa dans ces métiers où je bossais avec des comptables, des CFO, donc des gens qui sont pas les plus forcément fun. Ça me permettait d'amener, justement de la créativité. C'est qu'ils disaient, mais, enfin, pourquoi tu fais ça dans ton Excel? Pourquoi tu fais ça là-dedans? Je dis, mais parce que,
pourquoi regarde, tu mets des couleurs.
Ouais, non, mais en vrai, et comme j'avais fait du VBA, effectivement, tu parles de couleurs, bah, c'était, il y avait de la couleur, mais il y avait pas besoin de la mettre, ça se mettait tout seul, enfin. Et les mecs, ils me disaient, putain, mais en vrai, c'est cool, quoi, ça devient un peu moins chiant nos tableurs. Et à l'inverse, j'amenais un peu dans mes métiers créa et market un peu de structure qui m'a aidé beaucoup au début de J'ai un pote, quoi.
Un peu de rigueur, on va dire.
C'est ça, exactement.
En 2012, tu lances J'ai un pote dans la com.
Ouais.
À quel moment est-ce que tu as l'idée de créer un média dédié à la com et au marketing?
Alors, à l'origine, je vais pas mentir, c'était pas forcément la volonté et l'ambition de créer un média.
C'est souvent le cas, d'ailleurs.
Un peu comme je disais tout à l'heure, c'était une itération, une énième itération avec à chaque fois un peu plus. Au départ, c'est tout simplement mon portfolio. Je me suis dit que peut-être que j'allais faire un peu de créa. Je me suis dit, si je trouve pas de boulot, je me mets en freelance ou je monte une agence, j'en sais rien. Mais en tout cas, je voulais faire de la créa. Je faisais un peu de photos, un peu de retouches. Je connaissais pas mal la suite Adobe. Donc, j'ai fait mes premières armes comme ça, en faisant du logo, de la carte de visite, du site internet. Donc, je me suis fait un portfolio. Et puis, assez rapidement, j'ai pris les enjeux SEO. Donc, je me suis dit, il me faut un blog. Je vais commencer à rédiger. Il y avait un attrait des agences d'arriver sur le blog, donc j'étais invité en voyage presse, donc j'ai été assez rapidement à côté de journaliste. Dans le même temps, il y a d'autres médias aujourd'hui qui étaient des blogs à l'époque qui se sont créés, donc on se retrouvait entre nous, et puis c'est plutôt, voilà, portfolio assez rapidement devenu blog, et puis c'était un peu mon blog où je partageais un peu le fruit de ma veille créa, ce que je produisais aussi. Et voilà, c'est devenu ensuite un média quand tu vois que t'as une vraie communauté, que les gens te suivent, qu'il y a un intérêt sur ce que tu racontes, et que des gens veuillent écrire pour toi, tout simplement. Tu dis, mais à quel moment quelqu'un a envie d'écrire sur mon blog, en fait? Parce que pour moi, c'était mon blog. Et en fait, c'est devenu le média des gens qui travaillent dans la communication. Et donc, voilà, c'est devenu le média aujourd'hui, depuis ce matin, 1 million d'abonnés.
Ouais, ça a été étape par étape. Voilà, dès le départ, tu t'es pas dit, j'ai envie de créer un énorme média.
Je me suis pas dit, je vais créer le média, je pourrais faire du storytelling. Et dire, ouais, j'avais une vision. Mais voilà, c'est venu step by step, tout simplement.
Ça aurait pu s'appeler le blog de Laurent Garouste.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, je me mangeais tellement de bâches en créa que les gens me disaient toujours, ouais, j'ai un pote qui sait le faire, j'ai mon neveu qui touche sur Photoshop, j'ai pas besoin d'un free, j'ai pas besoin. Donc j'ai dit, à chaque fois, ils ont besoin de ce pote dans la com, ou ils l'ont.
Donc c'est comme
je veux être ce pote dans la com.
Qui est quand même un nom hyper cool.
Merci. C'est ce qu'on nous dit, heureusement, assez souvent, assez cool. Mais ouais, non, ça m'est venu assez simplement, quoi. Je me suis dit, je veux être ce gars-là que les gens appellent, et pas leur neveu ou leur nièce qui touche un peu à Photoshop.
Donc effectivement, ça démarre par... ça démarre pas par un blog, mais le blog arrive assez rapidement. La première fois où t'es invité à côté de journalistes, comment est-ce que tu le vis?
Alors moi, je le vis bien, eux moins bien.
Qui est souvent le cas, d'ailleurs.
C'est souvent le cas, parce que moi, j'arrivais avec ma GoPro,
pas de carte de presse.
Mon matos, pas de carte de presse, aucune formation en journalisme.
Le plus jeune qui débarque.
Juste, ok, il y a Fiat, il y a des Fiat 500. Je me suis renseigné, ils m'ont invité, ils nous filent des clés, et puis ça part en shooting photo avec des blogueurs automoto. Et voilà, juste la passion de faire découvrir des campagnes, des activations, des marques, des produits, des choses. J'étais pas influenceur, j'étais pas payé hein, pour y aller. Hein. J'avais juste, bon bah voilà, je payais pas le transport évidemment, j'étais invité. Donc moi, je le vivais super bien, à côté des cours, de dire bon bah je pars en Italie tester des Fiat 500 gratos. Ça me rapportait rien, mais finalement à l'époque, tu créais ton blog, c'était pas forcément pour en vivre. Et à côté de ça, bah, t'avais des journalistes qui nous voyaient arriver en se disant, bon, bah voilà, nous, on est journalistes, on a notre papier, notre crayon, on est assidus en conférence de presse, ils vont même pas aller essayer les véhicules ou alors ils vont tester rapidement. Donc, moi, je l'ai bien vécu et puis les journalistes, peut-être un petit peu moins, je pense.
Comment est-ce que ton entourage le vit au départ?
C'est une bonne question. À l'époque, j'avais pas spécialement de feedback parce que je pense que ça avait pas forcément d'impact sur l'entourage. Et comme c'était un side project, ouais, c'est cool. C'est quoi ton truc dans la com là?
Ouais.
Voilà, c'était souvent ça. C'est, on sait pas trop ce qu'il fait. C'est un peu un blogueur quoi. On était un peu catégorisé blogueur, même si j'étais pas le hardcore blogueur full time. Mais
hyper intéressant. À ce moment-là, du coup, t'es toujours salarié. Mm-hmm. C'est un side.
Ouais.
T'es solo. À quel moment est-ce que tu te dis let's go
En fait, encore une fois, ça s'est fait hyper progressivement. Je crois qu'au bout de 4-5 ans, je me dis il y a des gens qui m'écrivent pour rédiger sur le blog. Donc, je crée une section devenir contributeur. Et puis, j'ai des gens qui viennent, qui cherchent des stages, qui se disent ouais, j'aimerais bien avoir une première expérience dans une rédaction pour ensuite aller postuler dans des médias ou chez l'annonceur ou en agence. Et comme on était suivi par cet écosystème. Bah, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient pas de problème à venir rédiger pour le média, donc pour le blog. Donc, bah, j'ai eu plusieurs rédacteurs qui sont venus me rejoindre dans l'aventure, dont Valentin Richardo à un moment, et puis qui lui assez rapidement a dit, mec, je veux faire un peu plus, je veux pas être juste un rédacteur parmi les autres rédacteurs. Si tu me donnes un peu la main dessus, je deviens le petit rédac chef du blog. On fait monter le truc. Je lui ai dit, écoute. Vas-y, moi j'ai un boulot à côté, c'est vraiment pour le fun au départ. Donc il a fait ça pendant peut-être 3-4 ans, il a fait vivre et monter cette marque J'ai un pote dans la com tout seul. Lui était plutôt le profil littéraire, édito, il avait trouvé des formats, et puis moi j'étais plutôt le côté technique, maintenir le site, et puis dès qu'il avait un challenge d'un truc qu'il avait vendu et qu'il fallait produire, bah du coup il venait me voir, mais j'arrivais à gérer ça à côté de mes jobs, j'avais pas spécialement de raison d'aller plus loin sur J'ai un pote, ou en tout cas de m'investir plus, jusqu'à un moment où les pings de Valentin étaient, ils étaient déjà quotidiens, mais ils étaient plusieurs fois dans la journée. On a fait nos premiers events, on a sold out en 8 minutes 500 places, je crois, pour le premier event. Donc là, on a dit, ok, ça devient un peu huge. Les gens nous attendent vraiment et viennent, parce que c'est pareil, tu peux avoir des réservations, mais les gens viennent pas, et finalement on a rempli le lieu, ça débordait sur le trottoir, c'était n'importe quoi. Donc c'était quand même cool, et donc là ça trottait dans ma tête. J'étais dans une startup que j'ai rejoint à l'époque, où ils étaient 6, donc c'était un peu le dream job. Quand je suis parti, on était 60, donc je vivais un petit peu ce que j'avais aussi envie de vivre en termes d'entrepreneuriat dans cette boîte. Donc j'avais pas de raison de partir, et puis au bout de 4 ans, bah tu te dis forcément c'est quoi la next step, et elle était toute logique. 2020 arrive, et puis là je me suis dit je quitte mon CDI, et puis on se met full time à 2, puis à 3, puis aujourd'hui à 15. Donc
tu te rendais
voilà,
compte
vraiment 2020, ça,
ouais, c'est là le switch, ouais. On en parlera, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur le fait de, est-ce que tu te rendais compte de l'ampleur que ça allait avoir, ou est-ce que t'étais vraiment en mode non mais c'est juste un blog, enfin ça va pas, ouais.
Je suis optimiste, mais je me prépare toujours au pire. Donc
mais
en
pragmatique.
Vrai, je voyais de quoi.
Optimiste mais pragmatique.
Ouais, exactement. Donc je me disais, ça prend bien. Il y a un vrai truc à faire. Il y a un vrai truc à faire. Et après, je me suis dit, faut pas non plus griller les étapes. Faut valider ces choses-là. Faut pas qu'il y ait que deux clients qui nous disent oui. Faut pas s'enflammer trop vite. J'ai toujours été très à freiner, et regarder bien loin devant. Avant de mettre tout le poids d'une jambe sur le pas d'après. Et donc du coup, bah, je disais à Valentin, ok, on continue de prendre les signaux un peu du marché. Mais oui, a priori, c'est top. Premier event, gros succès, c'est top. Mais maintenant, faut continuer de le faire. Faut pas avoir déçu. Faut le monétiser, parce que c'est pareil. Hein, c'est facile quand personne ne paye, et quand tes sponsors ne payent pas, ils gagnent en visibilité. Tout le monde veut être sponsor d'un événement gratuit. Est-ce que tout le monde voudrait être sponsor d'un événement payant? C'est pas forcément la même chose. Donc voilà, toujours. Ouais, c'est cool, le signal du marché est plutôt positif. Maintenant, il faut aussi rationaliser et se poser les questions des étapes d'après. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps entre le moment où il y avait vraiment des signaux forts très très positifs et ma volonté de me dire ok, je lâche un full time et on va devoir payer deux personnes d'un coup. Parce que voilà, t'as quand même ton confort, hein, t'es salarié, t'as des projets de vie perso que tu peux financer, t'es entrepreneur. Tout de suite, t'es potentiellement à chercher tous les mois ta paye. Donc,
c'est plus le même mood.
Non, c'est plus le même mood, c'est plus les mêmes enjeux. J'avais pas peur forcément du risque, mais je voulais vraiment être serein en fait. Je me suis dit, je veux pas faire un truc où je reste tout seul. Déjà, on sera deux, donc ça veut dire qu'il y a moi, mais il y a aussi Valentin. Progressivement, il y aura des gens. Voilà, leur avenir professionnel, temporairement, il sera un peu entre tes mains. Si tu rentres pas de clients, tu peux pas leur dire bon bah écoute, on a signé un truc, mais on va pas pouvoir tenir nos engagements. Voilà, moi ça me dérangeait pas d'être à risque, mais je savais qu'on allait pas devoir rester deux, et donc je pouvais pas prendre le risque pour d'autres personnes de nous rejoindre, de leur dire bah viens et puis on verra ce qui se passe. Donc voilà, très précautionneux là-dessus.
Ce saut, tu le fais en 2020, donc bah, forcément une année quand même assez marquante, avec l'arrivée de la pandémie. Est-ce que ça a joué dans le fait que tu fasses ce saut ou pas du tout?
Alors, je l'ai fait avant l'arrivée, donc
évidemment.
Je l'ai fait courant, je ne sais plus, septembre, octobre, l'annonce à mon employeur, tu as un préavis, janvier, je suis libre. De
Perfect
faire ce que
time.
Je veux, mais mars arrive la fameuse pandémie, donc ouais là tu dis ok, donc déjà heureusement que c'était une rupture conventionnelle et pas juste une démission.
C'est quoi l'impact de cette pandémie sur J'ai un pote dans la com?
Bah c'est que tout de suite, en fait j'ai été, il n'y a pas eu de ok je sors d'un CDI, j'ai quelques mois pour qu'on se pose, qu'on assoie. Qu'est-ce qu'on va faire, la vision, il y a plus de vision là, tu vis une pandémie mondiale, même si t'en avais une, tout est remis en question. Donc heureusement, on n'avait même pas pris le temps de se poser forcément là-dessus. On s'est dit OK, bah là réponse à l'urgence, on doit construire quelque chose qui perdurera peut-être pas, mais là il faut qu'on propose quelque chose à notre audience. Et c'est là qu'on a phosphoré avec Valentin pour trouver des formats avec les écoles qui se retrouvent sans capacité de faire des salons. On a 30% de notre audience qui est jeune. Soit jeune diplômée, soit étudiante, qui nous pose énormément de questions sur l'orientation. Et nous, on est, moi, j'estime pas forcément pouvoir dire que mon parcours est un parcours à suivre, que mes écoles sont les écoles à faire. Donc, on a pris notre téléphone, on a appelé les écoles, on a dit, OK, il y a beaucoup d'étudiants dans notre audience qui se posent des questions sur quelle école choisir. On n'est pas en mesure de répondre. Est-ce que vous êtes chaud de faire des lives sur les réseaux sociaux? On n'en a jamais fait. Mais ça va être super. Et on a réussi à avoir une ou deux écoles qui étaient partantes pour faire des pilotes. Et on s'est dit, bon, bah, on verra, on fera un peu let's go with the flow, quoi. Il y en a deux, il y en a deux, il y en a dix, il y en a dix. On a fini avec 40 écoles, 40 lives, où toutes les semaines, on avait deux, trois lives d'organiser. On a dû acheter du matos qu'on connaissait pas. Moi, j'étais dans ma cuisine en mode régie. J'avais Valentin qui était retourné à Nancy entre temps, qui faisait le présentateur. Moi, j'étais ici en région parisienne à faire les switches d'écran comme si j'étais à la télé. Donc ça a vraiment tout chamboulé et voilà, on a créé une offre pour les écoles et qui finalement a perduré et on a réutilisé le même modèle parce que quittant un milieu de start-up, j'avais cette volonté d'avoir du récurrent. Enfin, ce qui est important dans une boîte aussi pour être serein, comme je disais tout à l'heure, c'est de se dire que tous les mois tu vas pas chasser quoi. C'est tu vends de l'abonnement, Tu trouves des produits que les gens ont besoin tous les mois, tu le splits, tu te démerdes en fait, mais tu cherches un truc qui va faire que t'as de quoi payer les charges fixes ou un minimum vital pour ensuite te permettre de financer ta croissance aussi, quoi. Donc vraiment de splitter une base et ensuite d'avoir une partie plus risquée. Et donc du coup, bah c'était tout bénef pour nous avec Covid, c'est qu'on s'est dit ok, les salons il y en a tout le temps, c'est des étudiants tous les ans, il faut recruter des nouveaux étudiants, donc ce format. Bah, il est potentiellement récurrent et donc on a fait des formats pour les écoles qui étaient à l'année, ils ont 12 mois pour consommer tout un tas de contenu et derrière ça revient l'année d'après et donc du coup on a fait la même chose sur le modèle agence avec des contenus différents forcément puisqu'ils représentaient quand même 70%, donc il y a plus d'importance en termes édito et en termes de format de proposer des choses à plus forte valeur ajoutée, hein. On parle pas pareil à un étudiant qui sort de qui vient d'avoir le bac de quand on parle à un CMO d'une grande boîte. Donc les enjeux n'étaient pas les mêmes, mais on s'est dit « Ok, c'est cool, on a trouvé un modèle récurrent en tout cas, qui nous permet de, bah, de passer ça également sur les clients agences, qui représentaient quand même beaucoup plus que les 30% d'étudiants, sachant que l'étudiant, c'est pas lui qui paye, c'est l'école, tous les contenus sont gratuits sur Gimpod, donc voilà, ça a vraiment kické un peu ce truc de on a une offre récurrente, on va pouvoir croître, embaucher et grandir, donc c'est vraiment ça qu'a donné ce business model ouais. qu'on a trouvé aujourd'hui, les formats, je vais pas dire que c'est grâce à Covid et au Covid qu'on a trouvé nos formats, mais ça a tout de suite mis le nez dans là où il fallait pour faire vite.
C'est en 2020 du coup que vous construisez ce business model. C'est hyper récent au final.
Mm-hmm.
Tout ces...
En même temps, j'arrivais full time, donc dans tous les cas, je pense que quelque chose s'est arrivé courant 2020, même s'il n'y avait pas eu de pandémie. Mais ouais, clairement, ça a accéléré, ça nous a permis de tester des trucs parce que de toute façon, on n'avait pas le choix, on était bloqués chez nous. Les budgets étaient freeze beaucoup chez les marques. Et aussi, c'est chez les agences, du coup, par effet de rebond, les annonceurs coupent les budgets, bah, les agences ont moins de budget. Par contre, les écoles, elles ont toujours besoin d'étudiants. Même si elles passent en visio, en mixte, enfin, peu importe les solutions, c'était des prospects pour nous qui, pour sûr, avaient des budgets à dépenser dans des formats. Donc, ils pouvaient plus faire de salon. Donc, c'était forcément en ligne. On avait une partie des gens qui voulaient adresser, donc c'était un petit peu logique.
Les étapes d'après, c'est notamment le fait d'agrandir l'équipe, j'imagine. Mm-hmm. Comment ça s'est passé ?
Bah, comme je disais, avec cette petite base de récurrents, on a pu se poser et prendre le temps de développer des formats. Comme il y avait des charges fixes qui étaient couvertes par une partie de recurring, bah, on a pu prendre des risques sur des formats, tester des choses, acheter du matos, tester un format, pas avoir besoin de trouver de sponsor tout de suite, puisqu'on avait cette base. Donc on a pu beaucoup plus tester des formats et des choses. On n'en a pas droppé beaucoup finalement, mais en tout cas on avait cette tranquillité de se dire ok bah vas-y on teste, on achète du matos.
Vous avez lancé
on
n'a
pas d'ingé son. On a lancé un premier podcast Charbon.
Mmh. J'aime bien le nom.
Merci. On l'a lancé. Voilà, ni lui ni moi n'avait fait ingénieur du son. On a acheté un Yeti, je pense comme beaucoup de podcasteurs. Peut-être pas ceux d'aujourd'hui, il y a peut-être autre chose, mais en tout cas, à l'époque, t'achètes un Yeti, 150 balles, et puis tu vas sur Audacity, enfin, on n'a pas inventé l'eau tiède là-dessus. Mais voilà, on s'est lancé, et le but, c'était d'avoir un édito fort, des invités connus, des invités moins connus, et ensuite, on a multiplié aussi les podcasts, on en a 6 aujourd'hui. Donc voilà, vraiment, ce que ça a permis, c'était de tester des formats sans avoir besoin de les monétiser, de les financer. Donc ça, c'était quand même assez cool.
Aujourd'hui, comment est structuré le média d'un point de vue équipe, en interne? Comment est-ce que ça fonctionne, j'ai un pote dans la com?
Alors, on a beaucoup d'éditos, donc beaucoup de rédacs. Copywriter, c'est la moitié du staff. On est une quinzaine aujourd'hui. Après, c'est beaucoup de gestion de projet aussi, de suivi. Donc là, on va avoir un quart de l'équipe. Et après, principalement, tous les métiers autour de la vidéo. Monteur, capta.
Vous externalisez aussi des sujets, j'imagine?
Assez rarement. Ou alors, c'est justement quand on fait du test de nouveaux formats. On va pas tout de suite prendre quelqu'un pour le mettre sur une mission si on sait pas encore justement où est-ce qu'on va avec ce format. Donc, on le teste un petit peu en interne et on externalise une partie. Si on voit que ça matche bien, soit la personne, on l'internalise ou soit on accélère et après, on trouve quelqu'un qu'on embauche. Mais finalement, on fait beaucoup de choses de nous-mêmes. Pour garder ce contrôle et puis aussi garder ce contrôle sur les coûts, hein, parce que c'est pareil, tu peux faire appel à une aide extérieure, mais il y a un moment de bascule où finalement c'est beaucoup plus rentable d'avoir quelqu'un en interne qui va pouvoir aussi faire un peu de gestion de projet, enfin qui va pouvoir comprendre un peu plus ton process et puis qui en termes de mindset fait partie de Gimpod dans la com, et c'est pas juste quelqu'un qui doit nous livrer une capsule social media, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui t'as pas besoin de le briefer, il va comprendre, il connaît Charbon, il connaît la ligne édito, s'il la connaît pas, il va se renseigner. Tu passes par quelqu'un de l'externe, tu lui demandes une vidéo montée, il te montre la vidéo et puis il a pas forcément de cohérence avec l'épisode d'avant ni l'épisode d'après. Donc non, finalement assez peu de besoins externes.
Aujourd'hui, votre audience, c'est quoi ? C'est majoritairement
professionnels du marketing, ouais. 70% de pros, 30% de jeunes. Je vais pas dire étudiants, mais jeunes. Je pense que les étudiants, on n'a pas le chiffre exact. Ça dépend aussi des plateformes, mais
des supports.
On est autour des 23-25% ouais. d'étudiants. Mais en tout cas, quand on crée un contenu, c'est pour un professionnel. On s'en fiche de son âge. Hein. Il peut avoir 25 ans et être expert dans son domaine, être le meilleur gros hacker du marché. comme il peut avoir 50 ans et X années d'expérience tant chez l'annonceur que chez qu'en agence. Donc on parle à ces professionnels, on répond à des problématiques, des questions qui peuvent se poser. On leur amène un peu un élan de d'inspiration aussi beaucoup. L'idée, c'est pas forcément d'arriver avec une réponse, puisque on n'a pas forcément non plus toutes les réponses. On essaye plutôt de donner des clés de lecture et d'analyse avec l'aide d'agences, puisque la plupart des contenus qu'on produit sont validés, ou en tout cas on les coproduit avec des acteurs du marché, tant chez les marques que chez les annonceurs. Mais voilà, l'idée, c'est de leur amener soit des réponses, soit des idées, des inspirations pour que eux fassent aussi le travail derrière, et puis ils reviennent potentiellement avec des questions. Donc voilà, on essaie d'inspirer, d'informer et aussi de divertir. Donc l'idée, c'est qu'on se dit que t'as beau être CMO d'une très grosse boîte, quand t'as une question, t'appelles un pote, t'appelles une connaissance. On veut être un peu incarner j'ai une question, je vais regarder ce qui se passe sur j'ai un pote dans la com. Il y a des formations j'ai un pote dans la com pour répondre à ces gens-là. Voilà, on veut être pas chiant quand on apporte une réponse, parce qu'on peut apporter une réponse et puis utiliser beaucoup de jargon pour perdre la personne en face et puis se positionner en tant qu'expert. On peut juste dire les termes, en fait, et la même information va passer. On utilise beaucoup le même. Derrière un même, on rigole, ça marche assez bien. mais on peut quand même faire passer une information au travers d'un même. Donc on essaie toujours de trouver ce pas de côté qui permet de faire passer une information. On n'a pas l'impression de bosser, on n'a pas l'impression de lire un truc chiant. Pour autant, l'information passe et souvent elle passe mieux puisqu'on s'en souvient.
Qu'est-ce qui fait la réussite de j'ai un pote dans la com selon toi?
Je pense que c'est la qualité éditoriale et ce pas de côté qui fait du bien aux gens. On est singulier, il n'y a pas d'autres médias market com qui adressent tout le secteur. Il y a des médias spécialisés comme nous, mais qui vont plutôt targeter une partie de l'audience. Nous, on s'est dit, on parle à tout le secteur de la communication, sans faire de barrière à l'âge, l'expérience. Un professionnel de la communication, je le disais tout à l'heure, il peut avoir 22 ans, hein, s'il s'est très bien formé, il peut être tout aussi compétent que quelqu'un de 3, 4, 5, 10 ans d'expérience. Donc on va écarter personne, on va parler à tout le monde. Et puis voilà, c'est le ton. Je pense que c'est le ton que l'on a qui fait que on se souvient de nous. On aime nous lire, on aime consommer les contenus chez nous. Et puis voilà, c'est ce petit truc qu'ont pas les autres finalement pour l'instant qu'on a. Donc je pense que c'est ça qui fait la différence.
Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur j'ai un pote dans la com, pas financier, mais un peu de tout l'écosystème, tu vois, que ce soit sur les réseaux sociaux. Tu me disais il y a quelques minutes que vous avez dépassé ou du moins que vous êtes prêt à dépasser, en tout cas quand l'épisode sortira, vous les aurez dépassés, c'est sûr, les 1 million d'abonnés sur toutes les plateformes. Mais est-ce que tu as d'autres chiffres potentiels?
Ce chiffre, c'est ça, c'est 1 million d'abonnés, c'est 360 millions d'impressions par an. Pareil, tout support, hein, site internet et plateforme social media. 6 after work, avec à chaque fois des lieux de plus en plus grands, de plus en plus invités. C'est 11 ans, on a fêté les 10 ans l'année dernière, donc là on est sur la 11e année, 15 personnes.
C'est quoi les objectifs futurs?
Les objectifs futurs, c'est de continuer de kiffer ce qu'on fait, parce que si on aime ce qu'on fait, on le fera bien a priori. La croissance se fera de manière organique, ou en tout cas sera insufflée de manière organique et amplifiée après par des leviers différentes croissances, mais c'est je vais pas on va lancer quelque chose à la rentrée. On est déjà à la rentrée, mais je peux le dire, parce que je pense que quand l'épisode sera publié, ce sera
le
déjà
18 novembre,
donc ce sera déjà annoncé. Donc c'est le lancement tout récent, du coup je vais me positionner à la date de parution, le lancement, comme on vient de l'annoncer, de notre studio de production qui va produire du contenu marque blanche, puisqu'on a de plus en plus de marques qui viennent nous voir pour cette patte j'ai un pote dans la com, hein. Dans l'édito, dans le mood qu'on insuffle au contenu qu'on produit, que ce soit du podcast, de la vidéo, de l'article, du contenu social media. Il y a de plus en plus de marques qui viennent et qui nous disent « on aime votre patte, est-ce que vous pouvez produire du contenu pour nous ?» Donc on officialise, on le faisait un petit peu en off the record pendant plusieurs mois, et là on s'est dit « ok, on est légitime, on a les équipes, on a le matériel, on a l'envie ». Finalement aussi, parce que ça permet aussi aux équipes de se heurter à d'autres challenges autres que celui de notre média et de nos clients dans cette niche market-com, créativité, pub, on peut aller faire pour une marque de café du podcast, de la vidéo, et puis avoir aucun lien avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est aussi un moyen de développer nos équipes, donc en même temps que de développer la boîte tout simplement. Donc la première chose, c'est le développement de ce studio de prod de contenu. C'est là où on nous attend depuis pas mal de temps, c'est sur la formation aussi. Donc on est en train de travailler sur une offre de formation. C'est au travers de l'événement. On fait beaucoup d'événements pour nous. Pareil, on a de plus en plus de demandes sur « Ok, vous êtes passé par quelle agence pour l'organisation de votre événement ?» Donc bah c'est nous, en interne, encore une fois. Donc on s'est dit « bah finalement, on peut aussi le faire pour des marques. » Donc voilà, on va événementialiser beaucoup plus aussi nos propres formats. Donc tout ce qu'on fait et qu'on touche et qu'on aime, si l'équipe valide, on ira. Donc
tout voilà, les axes. Tout est relié.
Tout est relié. Si tout le monde aime ce que l'on fait, les nouveaux deals, là où ça nous emmène, vers l'inconnu, on teste. Si ça plaît aux gens de bosser là-dedans, il n'y a pas de raison de ne pas y aller, quoi.
Ok, très cool. On va pouvoir passer à la partie bilan, avec deux petites questions. Alors évidemment, l'aventure est loin d'être terminée.
J'espère.
Mais ces deux petites questions, ça va permettre d'aborder deux sujets. Le premier, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale ?
C'est une bonne question. Covid, en vrai. Covid, parce que tu quittes une expérience de 4 ans à succès, puisque voilà, passer de 6 à 60, une boîte française, pareil, basée en région parisienne, qui devient une entreprise internationale, des équipes qui grandissent, un produit qui se développe énormément, ouverture du marché américain, enfin, tout plein de choses validées avec beaucoup de challenges et d'apprentissage. Tu te dis, ok, j'ai vu énormément de choses, bah let's go, on refait la même chose avec J'ai un pote et pandémie. Alors du coup tu te dis ok, là mon plan il est complètement, certes il était pas établi, il était à faire, mais du coup ça modifie le plan que tu devais planifier, quoi. C'est gros inconnu et tu te dis ok, je vais devoir bosser là sur un truc, comme je disais tout à l'heure, qui peut-être est temporaire. Donc il y avait cette frustration de se dire ok, là faut poser une rustine. Alors que moi je voulais aller dans le dur et développer le média, choisir notre vision, choisir les axes de développement de la boîte, grandir. Et là en fait c'est un frein, quoi. C'est tu dis ok, là faut juste poser une rustine, que la roue continue de tourner, et après uniquement en fonction de bah quand ça s'arrête, quelle ampleur ça prend, on se posera ces questions. Donc c'était un peu c'était dur parce que c'était de la frustration à gérer, de se dire ok, là il y a une grosse parenthèse, on sait pas combien de temps elle va durer, elle est mondiale, donc c'est pas un petit truc anodin. Donc ça, c'était très frustrant, en fait, de te dire que là, tu dois bosser sur un truc que tu vas peut-être démonter deux mois, six mois, un an après. Ouais, exactement. Donc te dire, tu quittes quelque chose en mode, allez, j'ai la rage de monter un peu comme j'ai fait et de refaire la même chose. Et là, voilà, tu découvres que non, tu vas juste poser une rustine sur un pneu et faire en sorte que la roue tourne, quoi.
Mon autre question pour cette partie, qui concerne du coup un autre moment, c'est quel a été le moment le plus marquant positivement de ton aventure ?
Quand on a fait notre première campagne métro pour les 10 ans l'année dernière, on s'est dit ok, on décrypte énormément de campagnes, du print notamment, pas que, c'est un peu le support traditionnel, quoi. Toutes les marques qu'on décryptait à un moment avaient fait, en tout cas les grandes marques et les marques qui n'étaient pas nées après les années 2000-2010 étaient passées par ce support, et on s'est dit ce serait tellement bien de nous voir dans le métro, quoi. Donc, on s'est fait un kiff, on a créé notre propre campagne et on s'est affiché dans le métro à l'occasion de nos 10 ans. Alors on n'a pas pu se payer tout Paris, hein, forcément, mais on a pris quelques stations bien sympas. Et là, bah déjà, c'était hyper valorisant pour nous de se dire qu'on est arrivé à un stade où on peut le faire et on peut se payer, entre grosses guillemets, le luxe de le faire. Et puis après, c'était de voir que c'était que les gens la voyaient et puis qu'en fait partageaient et nous disaient punaise, c'est trop bien, la campagne est bonne en plus, parce que c'est pareil, tu peux faire une campagne pour te faire plaisir mais elle peut ne pas être bonne, c'est un peu un kiff.
Il y a encore plus d'attentes.
Ouais, il y a aussi ce truc où tu te dis putain mais attends, on parle que de bonnes campagnes. What if on fait un truc qui est pourri, quoi, gros bide, parce que voilà, on prenait un parti pris, ok, pas ultra risqué, mais voilà, on voulait quand même s'imposer, faire ce pas de côté et incarner. En fait, on avait fait plusieurs visuels, j'ai plus forcément le wording exact, mais en gros, on disait, ça fait 10 ans qu'on fait de la pub, qu'on parle de pub, aujourd'hui, on fait la nôtre.
Ok.
Mes parents comprennent pas ce que je fais, mais je le fais bien, quelque chose comme ça. J'ai plus vraiment le wording. Mais,
Ouais.
et après, on disait, on n'a pas 800 000 abonnés, on a 800 000 potes. Voilà. Donc,
Très cool.
c'était pas non plus le truc le plus risqué, mais on voulait faire un truc pas forcément trop lisse non plus. Et elle a été hyper bien accueillie, en plus de nous faire plaisir. Et puis, on l'a annoncé pour l'event de nos 10 ans. Donc, très très cool. Ça, c'était vraiment le truc. Tu matérialises en dehors d'un écosystème très digitalisé. Hein. Toutes les campagnes, elles sont traitées sur le site, elles sont sur les plateformes social media. On avait fait de l'événementiel avec nos afterworks de la com. À l'époque, ça faisait déjà 5 éditions qu'on avait fait. Donc ça, déjà, ça matérialisait un petit peu le succès d'un pote dans la com. Mais te voir dans le métro, c'est la next step.
C'est le genre
la next step.
de petit achievement qui fait plaisir.
Ouais, exactement. Et puis voilà, tu fais la photo et puis tu montres à tes parents que t'es dans
exactement.
Le métro, quoi.
Alors,
rassembler à un événement, ils disent, ouais, ok, il a fait son anniversaire, quoi. Ou il a fait une soirée. Bon, une soirée, c'est a priori pas compliqué, hein. Tu mets un petit peu de boisson, d'animation, de bouffe, et puis tu peux rassembler des gens. Le métro, faut avoir un truc à raconter. Donc voilà, c'était vraiment l'achievement, comme tu dis, très valorisant.
D'ailleurs, ton entourage aujourd'hui, il le voit comment ce projet du coup?
Plus sérieusement
11
qu'un
ans
blog,
après.
plus sérieusement qu'un blog, il voit que je suis bien pris par ce projet, donc voilà, dans leur tête, c'est quelque chose de sérieux. Enfin, c'est pas tout nouveau, ça fait quand même quelques années maintenant que c'est sérieux, mais je pense que bah aussi de leur côté, ils se disent ok, ils savaient pas trop où est-ce qu'ils voulaient aller, ils faisaient un peu beaucoup de choses, peut-être trop de choses. Mais finalement, bon, bah, ça aboutit sur quelque chose de solide. En tout cas, avec des bonnes bases, ils viennent aux événements, ils voient les trucs, ils font putain, mais et vous êtes 15 en plus, enfin. Là, t'es ouais, on est 15, ouais. Donc, non, c'est.
Tout ça en partant d'un
portfolio. Je le fais pas pour ça, c'est pas un ego trip, mais clairement, tu te dis, ok, je fais mon boulot et il est apprécié. Donc, je vais continuer de le faire parce que moi, ça me fait plaisir, mais en plus, parce que ça fait plaisir. Tant au marché, puisque les gens viennent et l'accueillent bien, et puis aussi à mon entourage, même si c'est un gros investissement, forcément.
On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast avec des questions sur l'entrepreneuriat, les rencontres et le mindset. La première, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure? Même si on peut.
Il y en a forcément plusieurs, mais je vais lui faire un petit big up. C'est Jean-Noël Chintreuil. Que j'ai rencontré dans une expérience chez Air Liquide, donc dans un grand groupe, avec un spirit très entrepreneur, très multi-projet, multi-casquette, lancer plein de trucs. Et en fait, je suis beaucoup plus jeune, je dois avoir peut-être 5 ans de moins que lui. Putain, si je m'éloigne, il va me défoncer. Et du coup, je me retrouvais un peu dans lui. Et du coup, il le découvrira s'il regarde la vidéo, mais c'était un peu mon modèle, quoi. Je me suis dit, putain, il est solide, il a appris beaucoup de choses avant dans les grands groupes. Ensuite, il est. Donc voilà, je suivais un petit peu cette personne et on a beaucoup échangé. On a souvent essayé de monter des projets ensemble. Mais comme on se ressemble aussi un petit peu, je pense que bah, finalement, deux gros électrons libres restent trop libres finalement et n'arrivent pas à se trouver et à s'aligner. Mais bon, c'est pas perdu, hein. On peut toujours trouver Jean-Noël un projet commun. Mais voilà, je pense que s'il y a une rencontre, ce serait Jean-Noël, je pense.
Ok. C'est quoi le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre?
Ce que moi je considère important, c'est la compréhension / maîtrise de ce qu'on fait. On peut fake it till you make it, mais comprends quand même que t'es en train de le fake ou que t'as un plan et que tu sais pourquoi tu le fais. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie d'entreprendre. C'est comme quand tu délègues, quoi. Demander à quelqu'un de faire un truc que t'as jamais fait. Tu peux être forcé de le faire, tu peux être amené à le faire, mais c'est quand même vachement mieux quand tu l'as fait parce que bah tu donnes des indications beaucoup plus précises. Tu sais ce que t'attends, tu sais ce que t'as besoin. Donc tu sais créer un brief, une demande. Moi, j'aime pas les gens qui sont trop flous dans ce qu'ils demandent. Et ça fait un peu foufou. Et en fait, des fois, ça marche. Et après, ils disent, ouais, mais ouais. Et là, ils tirent des apprentissages, mais qui finalement sont faux parce qu'il y a énormément de facteurs liés au contexte, à la chance et à plein de choses. Et comme ils avaient pas la maîtrise, je trouve que c'est un peu dommage de tirer des apprentissages sur des trucs où, facteur chance, où il y avait tellement de variables dans l'équation que oui, ça a fonctionné. Certes, c'est bien. Mais tu peux pas maintenant donner des conseils alors que tu n'avais aucune maîtrise sur les événements ou tu n'as pas spécialement compris, c'est pour ça que je dis compris slash maîtrisé, ce qui se passait, quoi. Et moi, j'ai ce souci de devoir comprendre ce que je fais, comprendre où on va, maîtriser encore mieux, mais au moins comprendre. Pour me dire que si on a réussi, c'est parce qu'on savait ce qu'on faisait, et pas me dire je me repose sur la chance, on part avec 10 employés, on les emmène et puis au pire on les virera. Ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure. Donc entreprendre en comprenant ce qu'on fait, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre des risques, mais les évaluer et pas être trop foufou, quoi. Ça peut marcher, hein. De toute façon je dis pas qu'il faut pas être fou.
Et justement, c'est aussi pour ça que je la pose de cette manière, cette question, c'est quoi le plus important pour toi dans le fait d'entreprendre ? Parce qu'effectivement, on pose très souvent la question, c'est quoi ton conseil pour entreprendre ? Chaque conseil n'est pas forcément applicable dans ta situation, à part le fait de bien s'entourer, etc., enfin ce genre de conseils. Mais effectivement, tout est à prendre avec du recul.
C'est ça, exactement, ouais.
En prenant en compte le contexte, la personnalité, enfin... C'est pour ça que le plus important pour toi aujourd'hui, c'est ça.
Ouais, c'est de comprendre, ou en tout cas d'essayer. Encore une fois, c'est une question de mix aussi. Hein. C'est, il faut avoir une dose de risque, il faut avoir une dose de flou, hein, d'incompréhension peut-être. Mais je pense que c'est... En tout cas, moi, c'est ce qui m'est le plus important. En tout cas. Maîtriser et comprendre ce qu'on fait.
Comment est-ce que tu relis le pro et le perso ?
Comme je peux. Je les mélange. Je les mélange pour que ce soit bénéfique, en tout cas pour les deux, ou en tout cas pas trop impactant sur le perso. Je sais pas en vrai. Je les mélange en essayant de pas trop. J'amène forcément pas trop de perso dans le pro, mais c'est vrai que j'amène plus de pro dans le perso. Donc j'essaye d'embarquer et de faire en sorte que ce soit le moins visible ou en tout cas le moins problématique pour le développement de la vie perso, même si en vrai je pense que tu le sais aussi bien que moi, c'est pas une partie de oui. de plaisir, ou en tout cas c'est pas le truc qu'on fait en général le mieux, ou en tout cas pas au début. Donc voilà, on fait aller, on essaye, on itère. Et puis voilà, ça évolue aussi avec ton projet. Forcément, quand t'es deux, tu délègues pas. Quand t'es 15, tu peux déléguer. Mais forcément, t'as d'autres choses qui arrivent dans ton scope. Donc voilà, ça évolue aussi avec le projet.
Ok, très clair. Dernière question avant de passer à la dernière partie de notre échange. Comment est-ce qu'on fait pour créer le premier média B2B marketing sur les réseaux en France ?
Ça fait bullshit, mais on n'essaye pas de le faire. Ou alors, on se met vraiment dans la peau de celui qu'on veut toucher, quoi. Je sais que tout ce qu'on fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, la croissance se fait de manière très organique, ou en tout cas l'impulsion, elle est native. On fait un pilote avec quelqu'un, si ça marche tant mieux, si ça marche pas on arrête, on force pas. Et c'est de vraiment avoir envie de le faire, quoi. C'est pas de se dire ok, je veux devenir le premier média. Ça marchera peut-être, encore une fois, hein, je dis pas que ça marchera pas, mais moi, j'avais pas la volonté d'être le premier média. Je voulais juste être quelqu'un qui informe les gens de manière quali, décalée, mais en étant quand même pris au sérieux. On kiffe le faire. Si on continue de le faire, bah voilà, ça, tu avances, tu prends des places, tu te positionnes. Forcément, tu crées des formats qui favorisent aussi ça. T'as trouvé un levier, tu vas dans une direction et tu vois que c'est la direction dans laquelle tu aimes aller ou que t'as envie d'aller. Bon, bah, tu continues et tu développes ça. Mais c'est d'incarner, en fait. C'est vraiment d'être passionné par le projet, je pense.
Très clair.
On arrive à être premier aujourd'hui.
On passe à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. Le premier, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ?
Du sport. J'en fais pas beaucoup, hein, mais plus beaucoup. Mais c'est ça que je fais.
C'est que tu vas très bien, alors.
De quoi?
C'est que tu vas très bien.
Non, pas forcément. C'est que je prends plus forcément le temps. Mais c'est vrai que le sport, ça te permet de. Ah, tu redescends, quoi. Tu redescends de ta journée. T'es là, tu rentres chez toi. Si tu fais pas quelque chose qui t'occupe 100% de l'esprit, t'es encore dans les mails, dans les soucis, dans les idées, dans les visions, dans tout ça. T'es dans le sport, tu fais un sport d'équipe, t'es à fond dedans, quoi.
Carrément. C'est quoi ton plus grand rêve?
Ne pas avoir de limites ou de barrières à faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Voilà, de pas avoir d'une barrière financière, géographique, émotionnelle, je ne sais pas. Enfin, d'être libre à tout moment si j'ai envie de faire quelque chose, de pouvoir le faire.
C'est quoi ta plus grande peur?
C'est de pas pouvoir, d'être bloqué, c'est l'inverse, à devoir faire quelque chose que je n'ai pas foncièrement envie de faire ou qui m'émancipe pas, qui me développe pas, qui ou mon entourage proche, de faire quelque chose qui bloque aussi mon entourage, quoi. Mais voilà, d'être bloqué, quoi, finalement, de pas avoir ce choix ou cette liberté.
Est-ce que t'as un livre à me conseiller?
Oh, il est vieux, mais j'avais bien aimé. C'était Tim Ferriss, The 4-Hour Work Weeks. Basique, classique. Simple. Ouais. Vieux, hein, ancien, mais...
Et très relié à ton rêve, du coup. Peut-être.
Bah, franchement, non. Moi, si je devais... Mais en fait, c'est de pas avoir l'impression de bosser. Encore une fois, si tu dois bosser 5 jours, mais que t'y vas et que ça te développe, ça te rend heureux de faire ce que tu fais... Voilà, si tu me lances un business dans un sport que tu kiffes pratiquer tous les jours, bah tu vas côtoyer des gens qui ont le même mood, qui ont le même style de vie, qui donc finalement tu bosseras mais différemment, quoi. Donc c'est un peu comme un caméléon d'aller te glisser là où t'as pas l'impression de bosser, tu bosses dans un écosystème avec des gens qui te ressemblent ou là où t'as envie d'être finalement, même s'ils te ressemblent pas. Voilà.
Est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller?
Un film, juste pour faire rigoler ceux qui me connaissent, Top Gun.
Ok.
Si tu l'as pas vu, faut le voir.
Si, je l'ai vu.
Le 1, j'ai pas vu le 2. Okay. J'ai peur, j'ai trop peur.
C'est ton classique,
c'est mon classique.
Ton confort film.
Il y a Stalingrad aussi qui est pas mal.
Ouais.
Mais Top Gun.
Ok. Cette question, je l'ai rajoutée sur, depuis finalement septembre, sur les nouveaux tournages de la saison. C'est une question qui s'appelle la question Reverse. C'est toi qui prends le rôle de host pour une seule question.
Ok.
Et du coup, y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser?
Où est-ce que tu vois ton agence, ton podcast, l'un ou l'autre, ou une réponse comme ça, il y a deux questions dans la même, dans 3 ans?
Être une agence référence sur le podcast vidéo, tu vois. Vraiment qu'on ait créé des podcasts qui cartonnent, ce qu'on commence à faire, notamment cette année. Typiquement avec un podcast qui s'appelle High Value Entrepreneur, qu'on a lancé en avril et qui aujourd'hui
bien positionné aujourd'hui
est numéro 2 dans la catégorie business. Donc typiquement, s'il y a des objectifs, c'est effectivement dans 3 ans, si on regarde le classement business, mais pas que, même sur d'autres sujets, parce qu'il y a plein d'autres sujets qui nous intéressent, et pas que le business.
Dans le top chart.
Mais exactement, d'avoir plein de podcasts qui sortent de Tête de Tigre. Donc ça, c'est pour l'agence. Ce serait vraiment une marque, tu vois, de réussite pour nous, parce que c'est ce qu'on crée, du contenu qui performe et qui soit pertinent, qui soit intéressant. C'est ça, notre objectif. Et sur Serial, ça va être finalement de continuer à faire des rencontres. C'est pas un objectif. On n'a pas des objectifs de classement sur Serial. L'idée, ça va être de continuer de rencontrer des gens qui vont nous raconter leurs aventures, des gens potentiellement qui sont dans l'ombre aussi, mais qui font des choses incroyables. Moi, mon objectif personnel, c'est de continuer à avoir des conversations profondes qui vont potentiellement marquer des gens qui sont dans l'audience. Et finalement, tout ça va être hyper vertueux et va forcément, in fine, créer de l'impact, créer du business. Donc, c'est ça ma vision sur. Les 3 prochaines années, tu vois.
Ok. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite.
Là, on va faire une nouvelle question qui a été rajoutée. Ça s'appelle la question de l'équipe. Et donc, c'est quelqu'un de l'équipe qui va me remplacer. Je vais faire un petit comme ça.
Et au montage, il va apparaître.
Exactement.
Il y a des effets spéciaux chez Tête de Tigre.
Il y aura des flammes et tout. Non, pas du tout. Et pour cette question, ce sera Maureen, qui est étudiante à l'ISCOM, qui est une vraie communicante, qui est adepte aussi de ton média.
D'accord.
Et du coup, qui va te poser une question. Donc voilà, je regarde la cam et...
Là, c'est la question de l'équipe. Donc c'est tout nouveau chez Serial Entrepreneur. Et ma question, c'était quelle était la chose que tu pensais être vraie il y a quelques temps et qui s'est finalement avérée complètement fausse?
Très bonne question. Bon, je vais faire une réponse un petit peu décalée, hein, à l'image de J'ai un pote. C'est beaucoup la vie, V-I-E, des gens par rapport à ce qu'ils postent sur LinkedIn.
Ouais, j'avoue. Voilà.
Il y a des fois des choses, tu dis « Ah, c'est vrai », et puis après tu dis « Ouais, c'était très fake ».
Ça marche, merci.
Et donc, je suis de retour. Il me reste 2 questions. La première, c'est quels sont les entrepreneurs, donc potentiellement une et un entrepreneur que tu me conseilles pour de futurs épisodes.
Shubham.
Shubham Sharma.
Exactement. Parce que ces sujets me parlent et je trouve la personne très experte, inspirante, pédagogue. Je consomme beaucoup ses contenus, donc s'il n'est pas déjà passé.
Il n'est pas déjà passé, mais on a déjà discuté ensemble sur les réseaux, tu vois. Je sais que c'est quelqu'un qui écoute le podcast. Moi, je consomme aussi son contenu. Je trouve qu'il est très, très bon dans ce qu'il fait. Effectivement, ça peut être un potentiel invité que j'inviterai avec plaisir. Ma dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur ?
Bah, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de construire en cours de route. Donc, de ne pas forcément toujours savoir où il va, ou en tout cas d'avoir une grosse part d'inconnu. Et c'est quelqu'un qui sait pivoter, qui est débrouillard, qui sait se débrouiller. Si je devais choisir un mot, ce serait celui-ci.
Un débrouillard.
Qui trouvera une solution. Il est entrepreneur.
Ok. Eh ben écoute, ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup, Laurent, pour cet échange. J'espère que ça t'a plu.
Très. Peut-être, ça t'est peut-être pas vu, hein, parce que je suis pas le plus à l'aise d'habitude. Il y a pas de caméra sur nos podcasts, mais
franchement, t'as été très à l'aise.
C'était un plaisir, en tout cas, d'être invité.
Et c'était très cool. J'espère que toi aussi, qui nous a regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra évidemment tous tes liens en description. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un maximum de kiff, un maximum de réussite.
Toujours.
Et puis, let's go.
Let's go.
Ciao.